Là-bas, j'étais Inès, la voyageuse, la française, l'étrangère, celle dont l'espagnol, c'est pas la langue natale. Et là, ici, je suis française, donc j'appartiens à tout ça. Mais finalement, comme mon identité, elle a changé, donc au final, qui je suis dans ce pays, tu vois ?
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur l'épisode 43 de Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia Dosantis, et toutes les deux semaines, je vous invite à prendre un siège pour écouter ma conversation avec une femme inspirante sur son parcours de vie, mêlant développement personnel et voyage. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Inès. Inès, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un groupe de voyageuses que vous devez certainement connaître. Il s'agit du groupe We Are Backpackers. À l'époque, c'était en septembre 2020. Elle avait posté un message pour raconter son retour du Mexique vers la France suite à la crise que nous connaissons depuis maintenant un an. Et en fait, Inès, c'était pas un retour de voyage. Inès, elle habitait au Mexique, donc c'était vraiment son pays de vie. Elle avait son appartement, elle avait son travail, elle avait tout là-bas. Elle était expatriée, en fait, depuis 8 mois. Et ce qui m'avait marqué vraiment sur ce message, c'est qu'elle avait su accepter la situation. Son message, c'était un vrai message de motivation et d'espoir. Et ça m'a tout de suite intriguée. Donc j'ai voulu l'inviter sur le podcast, bien sûr, pour connaître son parcours, qui, entre parenthèses, vous allez le voir, est très impressionnant. Et aussi comprendre comment est-ce qu'on fait quand il y a une crise comme ça qui arrive, qu'on doit rentrer dans son pays, en l'occurrence en France, alors que c'est pas du tout un choix. Avec Inès, on a parlé de plein de choses. On a notamment parlé de découvrir l'entrepreneuriat très jeune, de reprendre ses études, de sa découverte du monde du social via du bénévolat aux États-Unis, son passage après par le Mexique pour découvrir la culture latine, d'aller étudier en Thaïlande et sa découverte de l'entrepreneuriat social, de faire des expériences pour comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas aussi, bien sûr de son installation au Mexique pour y vivre, comment est-ce qu'elle a décidé que c'était là qu'elle allait poser ses valises, et enfin de son retour en France et de savoir bien sûr comment est-ce qu'elle a vécu ce retour en France qui était non décidé. Encore une fois, c'est une conversation que j'ai adorée, on a beaucoup ri, et donc merci beaucoup Inès pour cette interview, pour ce partage super intéressant, et je suis sûre que vous aussi, vous allez adorer cette conversation. Je vous souhaite donc une très belle écoute.
Bonjour Inès.
Hello Anastasia.
Je suis ravie de t'accueillir sur De Vraie Vie, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Eh bien, merci à toi pour l'invitation.
Avec plaisir. Donc Inès, tu es aujourd'hui entrepreneur dans l'entrepreneuriat social, je sais pas si on le dit.
Exactement, ouais, c'est ça.
Mais avant de parler donc de ta vie aujourd'hui, j'aime bien faire un petit bond en arrière pour voir comment était ta jeunesse, ton enfance, etc. Et donc, ma première question, donc toi t'as grandi à Lyon, c'est ça, si j'ai bien
compris ?
Exactement,
à Lyon.
C'était quoi tes premiers souvenirs en lien avec le voyage ? T'es une grande voyageuse maintenant, mais est-ce que depuis toujours t'as voyagé ?
J'ai eu une enfance un peu difficile et du coup j'ai toujours eu envie de fuir en fait tout ça. Et je pense que j'étais tellement mal que du coup je cherchais un endroit où justement ne plus être mal. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à imaginer ma vie. Je pense que dans un premier temps c'était à New York parce que je regardais beaucoup de séries.
Ah
donc,
génial, ouais. Le rêve américain.
C'est ça exactement. Et en fait... Donc à mes 16 ans, j'ai voulu m'émanciper. Donc je suis partie voir mes parents, je leur ai dit
salut.
Bon, en fait, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir mon propre appart, ma propre vie, etc. Donc allez signer tout ça. Donc bien sûr, ça s'est pas passé comme ça.
Ils ont dit non.
Voilà. Mais ils m'ont dit OK, tu veux t'émanciper, arrête le lycée, donc va voir ton proviseur et trouve-toi un travail et après tu trouveras un appart. J'ai dit OK.
Donc parce que tu m'as dit à 16 ans, t'as arrêté le lycée, c'est ça ?
Voilà, exactement, c'est ça. Donc effectivement, je suis partie voir le proviseur, donc lui m'a quand même essayer de me prévenir, mais tu te rends compte, trouver un travail sans diplôme, là. Non, mais vous inquiétez pas, je vais me débrouiller.
T'inquiète, je gère.
Et donc, j'ai cherché un appart et c'était hyper dur. J'arrivais pas à trouver ce que je voulais, en fait.
Donc, tu cherchais sur Lyon, là, c'est ça ?
Sur Lyon, ouais, exactement, à cette époque. Et donc, sachant que mes parents, en fait, j'ai grandi donc à Lyon, mais ensuite, mes parents ont emménagé dans la banlieue, donc dans un petit village. Donc, du coup, forcément,
encore plus compliqué.
C'était une des raisons, c'était une des grosses raisons pour lesquelles je voulais partir et donc habiter dans la grande ville. Et finalement, donc à mes 18 ans, un de mes cousins est parti vivre à Paris. Donc, du coup, il a organisé un petit week-end donc avec moi et des potes à lui. Donc il m'a fait venir à Paris pendant tout un week-end et là ça a été un énorme coup de cœur.
Ah ouais.
Je me suis dit ok, c'est là où je veux vivre.
La grande ville, la capitale.
C'est ça.
Mais t'en avais rêvé un peu. Enfin, je sais pas, moi, je sais que quand j'étais jeune, vivre à Paris, tu vois, vu que je suis de Lorraine, c'était genre, waouh, c'était trop stylé et tout.
Je connaissais rien de Paris, en fait. Mais vraiment rien de rien. Et du coup, bah, c'est ça, tu vois, j'ai découvert la liberté qu'on pouvait avoir ici, toutes les choses qu'on pouvait faire, tous les gens qu'il y avait, toutes les sorties qu'il y avait. Donc pour une extravertie comme moi, c'était parfait, voilà. Donc là, je me suis dit, ah ouais, non, c'est bon, je vais habiter là. Donc je suis rentrée à Lyon. Je pense que j'ai dû mettre une petite semaine quand même pour que ça redescende un peu et pour me rendre compte que, bah, c'était vraiment là que je voulais habiter. Donc au bout d'une semaine, voilà, je suis repartie voir mes parents. Bon, papa, maman, j'allais vivre à Paris.
Ah ouais.
Et un mois plus tard, j'étais à Paris.
Ah ouais, à 18 ans, quoi.
Ouais, donc sans diplôme, sans argent.
Parce que là, t'avais arrêté le lycée, t'avais pas repris, c'est ça? Et
je travaillais en tant que secrétaire à ce moment-là.
D'accord, ok. Et après, donc tu montes à Paris et là, tu dis, je vais monter des entreprises.
Alors...
Bah déjà, comment est-ce que t'as découvert l'entrepreneuriat en fait?
Bah en fait, justement, en tant que secrétaire, c'était bien parce que j'étais au cœur de l'entreprise. Et du coup, bah tous ces sujets, ça m'intéressait. Donc bah autant l'administratif que la gestion, que la finance. Et j'étais en plus obligée de toucher à tout ça. La vraie histoire, c'est qu'à mes 18 ans, c'est ma mère qui a créé une entreprise de gestion de la paye, donc dans les ressources humaines. Et je lui ai dit, bah vas-y, on s'associe. Sauf que bah les premières années, voilà, c'était, il y avait vraiment pas grand-chose à faire. Et moi, j'étais bah du coup trop occupée à m'installer en région parisienne pour l'aider. Donc ça a été voilà la première passerelle, le premier tremplin voilà pour l'entrepreneuriat. Et ensuite, en m'installant en région parisienne, j'ai commencé à travailler dans le monde de la nuit. Et donc j'adorais, au début j'étais RP, ensuite chef RP.
Tu t'es dit vas-y, je vais essayer en fait parce que tu avais pas de diplôme à l'époque et tu as
voilà.
Juste tenté quoi.
C'est exactement ça. Alors disclaimer, donc RP c'est relations publiques mais du coup c'est des gens qui ramènent d'autres personnes en soirée.
Voilà, d'accord.
C'est pas non plus, voilà.
Ouais, ok, d'accord.
C'est ça, ouais. Et donc, comme je travaillais bien, que je ramenais beaucoup de clients, ils m'ont fait passer chef RP. Donc là, j'avais d'accord. Une équipe de RP qui travaillait pour moi. Et ouais, donc c'était génial. J'arrivais vraiment à me faire un revenu avec ça. Mais étant hyper ambitieuse, enfin moi, j'étais direct en mode non, mais moi, je vais organiser mes propres soirées. Donc du coup, bah voilà, j'ai monté une auto-entreprise, donc auto-entreprise événementielle. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à organiser moi-même. Donc à la fois pour des clients particuliers dans des bars. Et à la fois donc organisé donc dans des clubs quoi pour des bah pour des clubs.
Et ça à 18 ans donc.
Je crois que j'ai dû commencer à mes 19 ans.
Voilà. OK. Bah quand même super jeune quoi.
Ouais, mes 19 ans, donc j'ai continué un petit peu et au bout d'un moment, je pense ouais, peut-être un an plus tard, j'ai dû me rendre compte que finalement c'était un milieu très superficiel. Donc du coup, j'ai commencé à me concentrer sur l'autre entreprise, celle de ressources humaines dont j'avais d'accord. Un peu lâché. Donc c'est là où je me suis vraiment investie sur ce projet-là. Donc j'ai réussi à trouver plein de clients, à structurer pas mal de choses. Je faisais la gestion, les finances, etc. Voilà. Et donc bah toute la partie développement de l'entreprise. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai quand même senti qu'il me manquait vraiment quelque
d'accord.
chose.
Ouais.
Et c'est comme ça que je me suis dit bon allez, je vais passer le bac.
Allez. Au moins. Voilà. Mais du coup, tu vas passer le bac, mais plus que ça, parce que tu vas reprendre tes études et tu vas même passer par une école de commerce, si j'ai bien compris.
Exactement, c'est ça. Alors, faut savoir que du coup, quand j'ai passé le bac, ben, je savais pas trop où j'allais. J'étais juste en mode, bon, je veux faire des études supérieures. Je veux, acquérir des connaissances sur le business. Mais voilà, je savais pas comment les choses allaient se passer. Et au final, je me suis dit, bah, je vais faire un BTS, comme, en alternance. Comme ça, je peux le faire, bah, je peux rester dans mon entreprise.
Oui, bah oui. Parce que t'habitais encore à Paris, là. Fin, donc,
ouais, voilà.
En indépendante. Enfin, t'étais toute seule.
Ouais. Ouais, voilà.
Fallait payer de l'appart.
Voilà, exactement. Tu vois, ouais. C'est ça. Donc, ça motivait. Ouais, c'est pas pour chauffer des clients. Donc voilà, donc je travaillais en même temps, etc. Donc je développais l'entreprise, tout ça. Donc tout allait très bien. Et en fait, donc dans mon école, ils faisaient venir des écoles de commerce pour présenter un peu leur programme, etc. Et moi, au début, je me disais ouais, bon, ça a l'air cool, mais en fait, enfin, c'est pas pour moi, quoi. Mais et donc à ce moment-là aussi, c'est vrai que la fin du BTS arrivait et du coup, je me disais bon, ben c'est quoi la suite? J'avais vraiment envie de voyager, j'avais vraiment envie de réaliser ce rêve d'habiter aux États-Unis. Donc j'ai commencé un peu à regarder bon ben comment je peux faire pour aller étudier là-bas. Donc faut savoir qu'avec un BTS, c'est impossible. À moins de revenir à zéro, donc au post-bac ou alors de faire des choses qui sont pas enfin
ça existe pas là-bas.
Ouais, c'est ça. c'était hyper compliqué donc je me suis rendu compte de la
complexité.
Voilà. Okay. Donc je me suis dit, bon, c'est quoi le plan B? Et du coup, j'ai attends, école de commerce, ils étaient pas en train de nous dire qu'on pouvait voyager. Et donc du coup, ouais, j'ai commencé à regarder les écoles de commerce. Donc en plus de ça, c'était beaucoup plus facile que faire un dossier pour les États-Unis, forcément, tu vois. Et donc voilà, ouais, donc tu pouvais voyager. Enfin, en fait, ça avait l'air vraiment d'être un truc un peu à la carte. J'adore ce genre de petites choses. Du coup, je me suis dit, bon, ben, s'ils nous offrent la possibilité, ben, pourquoi pas? Donc, j'ai commencé à candidater en école de co et j'ai été prise dans toutes les écoles. Et j'ai choisi du coup une où il y avait les cours le matin pour pouvoir continuer de bosser l'après-midi.
D'accord, bah oui, parce que du coup, faut payer l'école, faut payer l'appart.
C'est ça, exactement.
À un moment donné, faut faire des choix. Et donc, voilà, tu m'as dit, donc tu continues de travailler et puis tu as commencé à vouloir voyager. Et t'avais un but plutôt précis dans le type de voyage que tu voulais faire.
C'est ça.
C'était quoi?
Alors, on va revenir un tout petit peu.
Ouais, j'ai loupé une étape. Ok.
C'est ça, mais j'en parle pas souvent, donc c'est normal. En fait, donc au bout d'un moment, quand j'ai compris que voilà, j'allais rentrer en école de commerce, etc., je me suis dit bon, là, l'entreprise, vaut mieux que je l'arrête. Il vaut mieux que je trouve un taf de salarié, en fait, en CDI, comme ça, voilà, c'est beaucoup plus facile pour plein de choses. Donc j'ai trouvé un travail. Donc au début, c'était presque à temps plein. Donc en tant qu'office manager dans une start-up d'innovation, conseil en innovation.
C'était quelque chose qui t'intéressait déjà ou t'as vraiment découvert ça par hasard?
Ouais, un peu par hasard. Moi, à chaque fois que je postule un peu à l'arrache.
On verra bien.
Ouais, c'est ça, genre des candidatures spontanées. Et puis généralement, je sais pas, il y a des gens bien qui me disent « bah venez ». Voilà, je suis tombée là-dedans. Bah au début, forcément, j'y comprenais rien du tout. Ça me passionnait pas, je m'y intéressais pas plus que ça. Et au début, ça se passait très bien, c'était une petite start-up, machin, machin. Et au bout d'un moment, en fait, bah, la start-up a commencé à prendre de l'ampleur. Ouais. Donc, du coup, forcément, il y a commencé à avoir beaucoup de stress. Le management commençait à laisser indésirer, etc. Et vraiment, toute la raison pour laquelle ça a commencé un peu à vriller, c'était la raison financière. Et j'avais déjà une prise de conscience par rapport, voilà, au capitalisme, etc., machin. Donc là, ça a été vraiment la goutte d'eau. En mode, genre, non, mais en fait, moi, il est hors de question de vivre dans ce système, en fait. Genre, c'est mort.
De faire un travail uniquement pour avoir de l'argent, c'est ça que tu voulais?
Exactement, dire. Mais même parce que j'avais toujours envie de reprendre une entreprise, mais voilà, je savais pas dans quoi exactement, mais je me disais non, enfin, je veux pas que ça soit quelque chose où je vais être continuellement freinée par l'argent, où ça va impacter mes relations avec mes employés, etc. Donc, je me disais non, je veux trouver une solution, je veux trouver une alternative en fait. Et donc, je me suis dit, vu que je vais voyager, en fait, je peux en profiter justement pour faire du bénévolat. Donc, voir comment ça marche à l'étranger, comment ça marche dans les ONG, dans les assos, enfin voilà. En plus de ça, dans quoi exactement je veux m'orienter? Parce que c'est bien de vouloir un impact, etc., mais
c'est large, quoi. Ouais, voilà. Donc, t'as commencé par aller où et faire quoi?
Donc, toujours les États-Unis.
Ah, ouais, ok.
Donc là, à ce moment-là, j'étais plus axée sur la Californie. J'ai pas été prise en Californie, mais j'ai été prise à Miami. Bon, plus ou moins pareil. Moins superficielle quand même, Miami, je trouve.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, c'est marrant.
Ouais,
c'est
tu vois, c'est ouf. Hein.
Bon, les États-Unis, il y a quand même ce côté très superficiel. Bon,
ouais,
c'est l'image que j'en ai.
Hein, mais... Ouais, oui, non, mais c'est, je te le garantis.
c'est vrai.
Et donc Miami en premier. Et en fait, j'avais peur. En plus, au début, je me disais, ouais, ça va être superficiel, ça va me faire chier. Et au final, non, c'était génial parce qu'il y avait beaucoup de latinos. Et au final, la plupart de mes potes, c'était des latinos. Et on s'entendait très bien.
Mais au moment de partir, donc toi, c'est dans quel cadre que t'es partie? C'est une césure, c'est quoi?
Donc, c'était ma deuxième année. Je faisais un échange de 6 mois. Enfin, un semestre. Donc là, j'étudiais du coup à Miami. Je suis partie début 2017. Au final, j'ai vraiment adoré. Enfin, ça a été vraiment une super expérience. Et du coup, je me disais, vu que je suis donc sur ce continent, que les latinos ont l'air génial, en fait, pourquoi j'irais pas
leur rendre visite?
Voilà, et voir un peu c'est quoi ce, pourquoi ils sont aussi heureux en fait.
Ah, c'est intéressant.
Ouais, je te jure, c'est quoi le délire? Enfin, pourquoi?
Parce que du coup, t'avais pas vraiment de potes américains, c'était plus
ouais,
avec,
ouais.
C'était d'autres, c'était des latinos qui étaient vraiment genre en échange comme toi?
Oui, il y en avait en échange, mais en fait, la plupart c'était des personnes qui avaient immigré. J'aime pas ce terme, mais du coup, qui avaient en fait vraiment quitté leur pays pour aller vivre ailleurs.
Ok,
quoi.
D'accord.
Après, il y en avait d'autres. Donc c'était leurs parents qui avaient quitté leur pays pour aller vivre aux États-Unis. Donc du coup voilà, ils étaient enfants d'immigrés. J'aime pas ce mot, mais
oui. Je comprends. Et du coup, t'as fait quoi comme expérience de bénévolat à ce moment-là?
Donc à Miami, je travaillais dans un foyer. Enfin, je faisais du bénévolat dans un foyer pour jeunes. Franchement, c'était un peu heartbreaking, tu vois. Genre, t'avais vraiment ces jeunes qui du coup étaient en
situation précaire plus quoi.
C'est ça. Mais surtout, enfin, en fait, tu sens la colère qu'ils ont en eux de pas faire partie du système, etc. De pas savoir qui ils sont, de pas se sentir bien avec eux-mêmes, de pas se sentir bien avec leur famille. Enfin, tu sais, de vraiment manquer cet amour pour du coup se sentir bien, tu vois. Et du coup, je gérais la partie administrative parce que j'avais pas les compétences pour gérer les enfants, tu vois. Mais du coup, j'avais plein de rapports à faire, et tous ces rapports, c'était les rapports en fait des premiers rendez-vous avec les enfants, etc. Et tu les voyais ils revenaient souvent, ils restaient 1 ou 2 jours, ils repartaient je ne sais où, et au final, il y avait encore un problème avec la police ou je ne sais quoi, donc remettait dans le foyer. Enfin.
Et là, c'est quoi la prise de conscience que t'as eue par rapport à cette expérience?
Je me suis dit, alors déjà, j'ai pas forcément envie de travailler avec les enfants. il faut de tout, hein. Et je sais que voilà, c'est pas fait pour moi. Mais voilà, du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie d'en apprendre plus. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui existe comme domaine pour voir, voilà, là où je me sentirais vraiment à l'aise et là où justement je pourrais avoir un impact et donc aider des personnes. Et c'est là où du coup, bah voilà, tout a commencé. Donc j'ai commencé à chercher plein de bénévolats à droite, à gauche. Donc j'en ai fait plein avec les tortues.
Trop bien.
Bon, encore avec les enfants.
Même si.
Voilà. Du coup, dans l'éducation, etc. Et dans les droits de l'homme. Et dans les droits de l'homme, c'est là où je me suis sentie le plus... donc, c'était au Mexique en 2018. C'est là où je me suis sentie le plus... Peut-être pas à l'aise, mais inspirée.
Ok. C'est le plus de sens pour toi, c'est ça qui...
Ouais, je pense, ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, allez, je vais aller travailler dans les droits de l'homme. Mais sauf qu'en fait, sans avoir, je sais pas, licence en droit...
Ouais.
En tout cas, un background sur ce sujet-là, c'est quand même... C'est quand même compliqué.
Tu peux être bénévole, quoi, mais...
Voilà, c'est ça.
C'est compliqué, ouais.
C'est ça. Et au final, juste après ça, je suis partie habiter en Thaïlande, parce qu'en Thaïlande... j'ai fait mon dernier semestre, du coup, en Thaïlande. Donc, juste après le Mexique. Donc, je suis vraiment passée du Mexique à la Thaïlande.
Donc, toi qui voulais rester sur le continent américain.
mais je me suis dit, on va quand même tester l'Asie, quitte à...
Allez.
Enfin, je veux dire, c'est gratuit. Il n'y a pas vraiment de contraintes, je peux aller où je veux dans le monde. Donc voilà, autant aller en Asie, je sais que c'est pas quelque chose qui m'attire. Donc justement, tu vois, ça donne l'occasion, ça donne une raison vraiment d'y aller, de découvrir un peu.
Là, c'est marrant de se dire, c'est pas un truc qui m'attire, donc je vais aller là-bas.
Ouais, ah oui.
Pour confirmer que j'aime pas, quoi. Ah non, vraiment, c'est...
Ah mais le but c'est vraiment de découvrir le monde, de découvrir d'autres cultures et de justement de faire des choses que t'aurais pas l'occasion de faire dans la vie normale entre guillemets.
Et là tu continues tes études en même temps, c'est ça?
Ouais exactement. Ah ouais.
Ah ouais, mais c'est quoi cette école?
T'as vu?
En 2 ans.
Mais je t'ai dit à la carte. Alors en fait, il faut savoir qu'en école de commerce, tu peux faire des choses comme moi j'ai fait, c'est-à-dire mais vraiment passer tout ton temps à l'étranger. Mais en fait, comme c'est des jeunes, parce que moi, du coup, j'avais je sais plus combien d'années de différence par rapport à eux, tu vois, vu que j'avais repris tard. Donc forcément, j'étais plus vieille, donc plus de maturité. Le projet est déjà un peu plus clair dans ma tête que, quand t'as 20 ans. Donc du coup, en école de co, ils forcent les gens à avoir minimum un semestre à l'étranger. Donc tu te débrouilles, stage, bénévolat ou échange, tu te démerdes. Mais voilà, il faut valider ces mois à l'étranger. Tu sais, dans l'état d'esprit, genre, il les force à aller à l'étranger. Alors que moi, j'étais en mode, genre, ah, mais...
Forcez-moi.
C'est exactement ça. En fait, c'est pour ça que c'est pas... Enfin, des parcours comme les miens, c'est relativement rare, tu vois. Parce que du coup, il y a la possibilité, mais tout le monde n'a pas forcément l'envie, ni le courage de le faire, parce que bon, quand même, c'est pas rien. Et surtout, ils sont pas forcément au courant non plus, en fait. Tu vois, ils font pas un gros,
pas de recherche non plus.
Ouais, ouais, voilà. Et puis, y a pas de pub non plus. Genre, bon, alors, venez en école de commerce et passez 3 ans à l'étranger.
C'est ça. Ouais, effectivement. Mais du coup, t'étudies en Thaïlande, alors.
Donc, ouais. Du coup, voilà. Ouais. En Thaïlande. Donc, pour mon dernier semestre, pour valider, donc, mon master. Et j'étudiais, dans une des meilleures écoles d'ailleurs. Et c'était vraiment génial. Je pense que de tous les cours que j'ai eus pendant ces années d'école de commerce, vraiment, la Thaïlande, c'est là où j'ai appris le plus.
Ah ouais?
C'était juste un semestre.
Et alors, est-ce que t'as kiffé?
Ouais, franchement, alors, pas l'expérience, pas Bangkok.
Okay.
C'est vraiment horrible. J'ai vraiment suffoqué là-bas. Mais par contre, ouais, les cours, j'ai vraiment appris énormément de choses. Même si ces mois-là ont été vraiment durs, surtout après le Mexique, où c'était le coup de cœur total, tu vois. Donc, passer en Thaïlande, Bangkok surtout, où là, c'était pas top. En plus, j'avais plein de trucs à écrire, genre le mémoire, les rapports, les machins, les trucs. Donc, j'avais même pas le temps de profiter. Donc, c'était horrible.
Ah ouais, c'est pas, tu peux aller à Koh Phangan, te faire une petite semaine.
Voilà, tu vois. Bon, ça va, j'ai réussi à y aller. Quand même.
Attends.
Mais.
Pas déconner, quoi.
C'est ça. Mais ouais, effectivement, c'était dur. Et du coup, je regrette pas parce que, tu vois, les cours m'ont appris vraiment énormément de choses. Et en plus de ça, comme j'étais en recherche de me dire, bon, ok, les droits de l'homme, c'est bien, mais finalement, est-ce que vraiment c'est possible? Du coup, il faudrait peut-être pas mieux que je commence à chercher des choses. Comme je m'étais dit, non, mais le Mexique, ça y est, c'est bon, je kiffe, donc je pars. Dès que je rentre de Thaïlande, je repars direct au Mexique y habiter, c'est bon, c'est acté.
Donc toi, c'était y habiter, quoi. C'était vraiment, tu voulais t'installer là-bas, ok.
Ah oui. Parce que oui, tu vois, pour revenir au début, j'ai toujours cherché, du coup, un endroit où me sentir bien, m'épanouir et me poser. Et le Mexique, voilà, ça représentait vraiment ça, tu vois. Du coup, je me disais, ok, bon, on a le lieu, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est en Thaïlande où j'ai vraiment fait d'énormes recherches, et c'est là où j'ai trouvé l'entrepreneuriat social. Et du coup, donc, j'ai fait un peu mon mémoire sur le sujet, ce qui m'a permis de faire des entretiens avec des gens partout dans le monde sur le sujet. Et du coup, donc, j'ai réussi à rencontrer une personne dans l'entrepreneuriat social, donc en Thaïlande, donc la voir face à face, tu vois. Ça a été un tu sais, ben, vraiment, le genre de moment où tu sais que ça change ta vie.
Ah
tu
ouais.
Tu genre, sors de là.
Un halo de lumière.
Non, mais, mais c'est clair. Je me suis dit, mais moi, en fait, je veux travailler là-dedans et je veux travailler avec des personnes comme elle. C'était clair.
Trop bien.
Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, je suis rentrée en France. J'ai terminé mon master. J'ai obtenu mon master. Tout ça, tout ça. Je suis vraiment restée pas longtemps en France. Hein, juste moins de 2 mois, tu vois. Le temps,
ah ouais.
Temps de voir la famille, profiter, manger un peu la bouffe française. Voir les potes à droite,
un peu
à gauche,
fromage,
voyager,
c'est
tata.
Parti, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, je suis allée direct au Mexique. Donc, forcément, trouver un travail en tant qu'étrangère sans connaître personne, c'est très dur. Surtout qu'au Mexique, c'est comme en France, il y a un petit réseau, tu
et
vois,
tu
à faire.
Parler espagnol, du coup?
Ah oui, donc, du coup, bah, j'ai appris entre-temps. Donc, à ce moment-là, ça va, je commençais à bien me débrouiller. C'était pas, peut-être pas suffisant pour vraiment travailler. Donc, c'est pour ça, tu vois, il fallait que...
Ouais, puis il y a travailler, je cherche un emploi alimentaire. Et puis, il y a travailler dans un truc.
Ouais, vraiment, ouais, tu vois.
Ouais.
Donc, du coup, c'est pour ça, je me suis dit, bah, je vais faire un stage. Je vais faire un stage. J'avais trouvé une organisation internationale qui s'appelle Ashoka, qui est du coup une communauté et un accélérateur d'entrepreneurs sociaux. C'est vraiment genre la référence en entrepreneuriat social. Ils sont vraiment dans le monde entier. Enfin, je pense que c'est un peu les pionniers. C'est pour ça qu'ils sont aussi grands. Tu vois, ils ont commencé il y a longtemps. Je pensais pas que j'allais être acceptée pour ce stage. J'ai été acceptée. J'ai postulé nulle part ailleurs. Et du coup, le stage, voilà, c'était à la fois pour me laisser un peu de temps, tu vois, de m'installer, de trouver un travail.
Un réseau aussi.
Voilà, exactement. Et surtout qu'à Shoka, du coup, c'était obligé qu'ils allaient avoir un bon réseau, tu vois, vu leur position. Donc, je me disais, mais ça va être parfait. Et effectivement, d'avoir cette expérience à Shoka, je sens que sur ma carrière, ça a mis un énorme boost.
Donc, faire un stage où t'étais pas rémunéré.
Pas rémunéré, voilà.
Voilà.
Tu veux bien me préciser.
Non, mais parce que c'est marrant, j'ai eu cette conversation, bah, justement, avec mon avant-dernière invitée, où justement, elle a trouvé sa voie un peu en faisant des expériences de bénévolat. Donc, pendant 2 ans, elle a fait du bénévolat où elle gagnait pas d'argent. Donc, elle vivait sur ses économies. Mais ça lui a permis, justement, de découvrir sa voie et puis d'ouvrir d'autres portes, en fait.
Voilà. Ben, c'est exactement ça, tu vois. Ça a été exactement la même chose. Et moi, justement, en plus, parce que c'est ça aussi, c'est que... Alors, dans le social, de manière générale, il vaut mieux avoir de l'expérience en tant que bénévole. Et donc, c'est pour ça aussi que pendant ces 2 ans, voilà, j'avais passé tout mon temps, la plupart de mon temps, en fait, à faire du bénévolat, à droite, à gauche, etc. C'était, voilà, pour aussi acquérir de l'expérience, pour qu'une fois où j'allais postuler, bah, j'allais être plus prise au sérieux. Et d'ailleurs, bah, je pense que ça m'a clairement aidée chez Ashoka. Enfin, ça m'a aidée déjà à trouver le stage bénévolat dans les droits de l'homme. Ensuite, du coup, bah, ce stage-là m'a fait obtenir le stage chez Ashoka. Ça s'est vraiment bien goupillé, tu vois, les uns dans les autres à chaque fois. Voilà, donc du coup, grâce à Ashoka, effectivement, j'ai trouvé mon travail qui était donc chargé d'une communauté d'entrepreneurs sociaux au Mexique, d'un accélérateur tech et impact.
Donc ça, c'est pas en lien avec les droits de l'homme.
Non, du coup, c'est bon, j'étais vraiment partie dans l'entrepreneuriat social. Et justement, tu vois, avec Ashoka, en fait, je voulais vraiment vérifier que l'entrepreneuriat social, c'était ce qui me plaisait. Et effectivement... Ce stage, sur tellement de facettes différentes, tu vois, ça m'a, enfin.
Du coup, donc, ce stage t'a aidé à trouver, donc, ce boulot. Et là, tu te dis, bah, je m'installe au Mexique, en fait. Je vais faire ma vie.
Bon.
Je peux jamais savoir sur combien de temps, mais tu te dis, voilà, là, je m'installe pour quelques années. Je suis bien au Mexique. Et comment c'était, justement, cette vie au Mexique? Parce que, du coup, j'imagine que t'avais pas forcément de réseau, même de potes, etc. Comment on arrive comme ça dans un nouveau pays?
Alors, très bonne question. La première fois que je suis arrivée au Mexique, donc c'était fin 2017. Donc là, je bougeais vraiment beaucoup. Mais même en bougeant, finalement, parce que c'est ça, c'est les Mexicains, ils sont hyper chaleureux. Et en plus, ils adorent les étrangers. Donc en fait, ils vont hyper rapidement vers toi à te poser des milliards de questions. Et donc le lien se fait hyper rapidement, tu vois.
Je pense que t'es un étranger qui arrive en France,
voilà,
t'as pas le même accueil.
Et pourtant, j'ai tellement d'étrangers qui m'ont dit qu'ils ont été bien accueillis par les Français. Ah ouais,
bon.
Je te jure.
Du coup, j'en
Donc ouais, du coup, voilà, je me suis fait vraiment très rapidement au final des potes et je suis d'ailleurs encore toujours en contact avec eux. Je vais encore leur rendre visite, tu vois, dès que je peux. Donc c'est une des raisons qui m'a fait me dire ah putain, c'est cool quand même. Donc en fait, au final, même si tu vois les fois d'après où je suis revenue, j'étais pas forcément dans le même endroit que ces personnes-là, mais en fait, au final. Bah, j'allais toujours les voir.
D'accord.
Tu vois, un petit coup de bus et hop, ça y est.
Ouais,
et
par rapport aux distances au Mexique, j'ai du mal à me...
Ouais, alors non, c'est très... je dis un petit coup de bus, mais...
Un petit bus de 12-13 heures, quoi.
ça allait. Une fois que j'ai arrêté de voyager, que je me suis vraiment posée donc, au Mexique, je suis arrivée à Mexico City. Et au final, les gens que je connaissais, ils étaient à des centaines de kilomètres de Mexico City. Donc du coup, quelques heures de bus. Voilà, grand maximum 4 heures, ça va. Mais effectivement, il y a des bus qui font 20 heures. Donc du coup, voilà, déjà, je me sentais finalement la première fois où je me suis dit, bon, vas-y, je vais m'installer au Mexique, donc fin 2018 pour les droits de l'homme. Je me sentais pas seule parce que j'avais déjà ces personnes-là que je connaissais. J'étais en coloc aussi à ce moment-là avec des étrangers. Bon, alors, il y avait une Française, un Allemand qui parlait français et un autre Allemand
qui parlait français aussi.
Non, ça va. Mais ouais, du coup, bon, ça a quand même facilité les choses. Mais on s'entendait hyper bien et en fait, chacun avait son univers et donc des personnes, des Mexicains qui connaissaient à travers de cet univers. Et en fait, on échangeait un peu tous nos univers, donc ça permet vraiment, voilà, de rencontrer encore plus de personnes, de découvrir plus de choses. Et en plus de ça, bah, vu que je suis fan de langue, etc., et qu'il fallait que j'améliore mon espagnol à l'époque, je faisais beaucoup de language exchange. Et c'est là où, du coup, j'ai rencontré énormément de gens.
Malin.
Ouais.
Donc toi, tu donnais des cours en français et eux en espagnol ou...
En fait, le language exchange, c'est vraiment juste, tu te pointes, tu parles à des gens dans la langue que tu veux, et tu bois des bières.
Et puis tu vois s'ils comprennent ou pas, quoi.
Voilà, c'est vraiment ça. Donc du coup... Bah, si tu vois quelqu'un qui parle français avec qui t'as envie de parler français, bah, tu vas voir cette personne. Si tu vois quelqu'un qui parle allemand, bah, idem, tu vois, et voilà. Et comme ça, tu bouges et tu rencontres de nouvelles personnes. Et,
ah, c'est bien, ça.
Et ouais, les liens se créent, genre vraiment au fur et à mesure, tu vois.
C'est, on peut c'est faire vraiment... ça à Bordeaux.
Mais je te jure, en plus, ça existe vraiment partout, même à Paris. Bordeaux, c'est sûr, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai envie de le refaire, tu vois, ici, en France.
Bah ouais,
en
c'est
France,
carrément une bonne idée.
Mais bon. Conditions actuelles, voilà, ne permet pas. Mais voilà, dès que ça ira mieux, je refais ça. Et il y a aussi d'ailleurs Couchsurfing, que tu dois sûrement connaître.
Ouais, ouais.
Pareil, ils organisent souvent des événements. Et du coup, bah pareil, grâce à ça aussi, j'ai rencontré énormément de gens.
Ça, c'est bien à savoir, parce qu'effectivement, on a toujours tendance à vouloir rencontrer des gens quand on est en voyage. Mais on peut aussi rencontrer des étrangers qui sont en France.
Ouais.
Et du coup, pratiquer une langue et puis même juste rencontrer d'autres personnes, quoi.
C'est ça. Et puis, du coup, tu vois, dans le cadre de Couchsurfing, bon, alors, je peux pas actuellement, mais dès que j'aurai un appart, je me mets sur Couchsurfing et j'héberge des gens parce que j'ai été aussi hébergée, tu vois, à l'étranger. Donc,
pour rendre un petit peu la...
Bah ouais, et puis voilà aussi rencontrer... Enfin, tu sais, continuer un peu de voyager, mais voilà, tout en restant en France.
D'accord, alors attends, donc toi, t'es installée au Mexique, t'as ta vie, etc. Et puis là, bim, mars 2020.
Coronavirus.
Le corona qui arrive. Et donc là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu vas devoir prendre une décision. Comment t'as fait?
Donc voilà, moi j'ai donc l'endroit où je travaillais, c'était une start-up. Donc on est hyper flexible, etc. Donc faut savoir, j'étais en train d'organiser un énorme événement avec des speakers de ouf que j'avais mis genre des semaines à tanner en mode genre tu veux bien un speaker pour mon événement, tu vois. Je les connaissais hein, mais j'avais normalement pas forcément cette position de les tanner et pourtant ils ont tous accepté, tu vois. Et donc enfin vraiment le gros événement, je suis en mode genre waouh, là c'est ma carrière qui est en train de se jouer, tu vois. Ouais, je te jure. Et donc à une semaine de cet événement, donc c'était la semaine avant le confinement. Voilà, au Mexique, il y avait 25 cas à ce moment-là. Donc c'est rien. Du coup, moi je me disais 25 cas, OK, la France c'est en train de fermer, mais nous ici on est loin d'avoir des risques. Et donc c'est bon, tu vois, mon événement c'est dans une semaine. En une semaine, il va pas il va rien se passer. Et en fait, trop drôle parce que le jeudi, je crois que c'était le jeudi 12 mars. Ou peut-être même le 11, un truc comme ça. Vent de panique. Mais d'un coup, au Mexique. Mais vraiment, d'un coup, tout le monde a commencé à paniquer, etc. On m'a dit, waouh, non, c'est chaud, il y a commencé à avoir des rumeurs de fermeture d'espaces de coworking. Donc, en tant que start-up, on bossait que dans les espaces de coworking, tu vois. Et du coup, moi, je me dis, non, mais ça va, arrêtez. Enfin, c'est mon événement, il est dans une semaine. On va pas l'annuler. Non, c'est mort. Mais je commence un peu à en parler à mon boss, commence à y avoir des rumeurs, moi j'ai un peu peur. Et il faut savoir en fait que au Mexique, c'est les premiers à avoir eu H1N1. Ça vient du Mexique.
Ah.
Donc en fait, eux, ils connaissent, ils savent ce que c'est le confinement, etc., une épidémie. Donc du coup, c'est pour ça en fait qu'ils se sont vraiment fermés d'un coup. Et donc, les événements commençaient déjà à s'annuler, mais les gros événements. Moi, c'était un événement de 100 personnes, donc c'est bon, on est large. Et en fait, non. D'un coup, tout s'est fermé. Mais vraiment, d'un coup, ça n'a pas été une décision du gouvernement. C'était vraiment une...
Ah oui.
Ah ouais. C'est parce que les Mexicains avaient déjà vécu ça.
Ah ouais. Donc ils se sont dit, on n'a pas envie de revivre ça, donc on va anticiper, quoi.
Ouais, exactement.
Ah ouais.
Ouais, tu vois, c'est un truc de ouf. Hein.
C'est pas bête.
Ouais, bah oui, clairement.
En soi. Mais
clairement.
C'est vrai que...
Sauf que malheureusement, ils peuvent pas se confiner correctement parce qu'il y a des gens qui vivent au jour le jour et donc du coup, s'ils ne sortent pas travailler, ils ont rien à manger le soir. Donc du coup, malheureusement, eux, leur confinement a duré énormément de temps parce que tout le monde n'a pas les moyens de se confiner comme nous en France, tu vois, il y a pas le chômage partiel là-bas par exemple. Donc ça je le savais pas du coup à ce moment-là. Donc j'en parle à mon boss en mode genre écoute, moi là je commence à avoir un peu peur pour l'événement. Il me dit bon, au pire des cas, on le décale dans un mois. Moi je dis attends, un mois, t'es sûr de toi genre? Il me fait oui, mais nous on a eu H1N1 et voilà, ça a duré que un mois où tout a été coupé et un mois plus tard, c'est bon, tout a recommencé, machin. Enfin moi je suis vraiment activement les médias à ce moment-là parce que ça m'inquiétait quand même cette situation et je me disais putain un mois je crois qu'il est un peu dans son univers là. Du coup donc le lendemain, donc le vendredi, l'espace de coworking dans lequel on organisait l'événement et avec qui on était en partenariat pour cet événement, ils décident donc de fermer donc tous les événements, alors que eux, ils ouvraient un nouvel espace de coworking là où on devait faire l'événement. Ils ont été obligés d'annuler cette ouverture, donc ils ont dû perdre. Je veux même pas, enfin les pauvres, tu vois. Et moi, j'avais la chance que je devais faire ma remise de diplôme en France en avril.
D'accord.
Donc j'avais des billets d'avion aller-retour. Et là, donc Air France annonce, les Français rentrés, Donc si vous voulez rentrer, les billets d'avion, voilà, vous pouvez les échanger gratuitement. Je regarde, donc je décale au début de 2 semaines ou un truc comme ça pour fin mars. Au final, donc l'espace de coworking il ferme. Là, je me dis en fait, je pars dans 2 jours en fait.
Ah pourquoi je vais rester plus doux, c'est ça, tu perds ton...
Concrètement, ouais. Si j'ai plus d'événements à créer en tant que chargée de communauté, enfin, je fais quoi, tu vois? Sachant qu'on peut tous travailler à distance, que du coup, j'ai pas envie d'être enfermée dans mon appart, tu vois, toute seule. J'étais pas toute seule, j'avais des colocs, mais voilà, enfin. C'était pas la même coloc, donc j'étais un peu plus tout seul dans cet appart. Et je me disais, en plus j'avais mon copain en France, donc je me dis, mais je vais aller chez ma maman tranquille, tu vois.
Tu dis, je vais rentrer 1 mois ou 2 mois, je vais revoir tout le monde, ça va être sympa, et puis je vais partir, quoi.
C'est exactement ça. Moi, j'étais refaite, hein, je me disais, c'est génial. En plus, le vendredi, ça a fermé. Le vendredi soir, j'ai pu voir quelques potes pour leur dire au revoir. Le samedi, j'ai fait une espèce de petite soirée, mezcal, tequila, histoire de, tu vois,
enchilada et tout.
Ouais, voilà, total. Hein. Ah ouais, tacos, machin, tout ce que j'ai pu. Et le dimanche, donc je pars. Donc j'arrive le lundi en France. Donc le lundi, c'est le jour où Macron a annoncé nous sommes en guerre. Donc j'arrive en fait direct. Je peux profiter de personne. Mon copain, je peux pas le voir. Enfin, génial. Et ouais, du coup, je me disais c'est cool. Déjà, je vais pouvoir redescendre de tout le stress que j'ai accumulé. Je vais pouvoir profiter de ma famille, pouvoir voir mes potes, etc. Ça va être cool. Donc au final, on est confiné, donc rien de tout ça. Et en fait, assez rapidement, donc je vois mon boss qui ne fait absolument rien pour la situation. Même qui nous impose certaines choses, alors que pour moi ça me paraissait vraiment irréel compte tenu de la situation, tu vois. Donc je me dis il est hors de question de faire ça en fait. Et en plus j'appréciais pas le fait qu'ils prennent les décisions comme ça et qu'on soit pas on fasse pas partie d'une brainstorming de qu'est-ce qu'on fait vraiment. J'ai vraiment mal senti la chose. Je me suis dit en fait je crois que le Mexique c'est fini pour moi, parce qu'on était, en plus j'étais en process de visa. Et déjà, sans le coronavirus, à cause du nouveau gouvernement, il y avait des délais de ouf pour obtenir le visa. Donc là, avec le coronavirus, je me suis dit c'est mort. Et du coup, en plus, là, les entreprises ont arrêté de recruter. S'ils recrutent, c'est forcément des locaux. Enfin bref, en fait...
Parce que toi, t'as perdu ton job ou t'as...
Non, j'ai pas perdu mon job, mais je voyais bien que mon boss, il faisait rien, que du coup, on avait plus de...
Salaire.
on avait même plus d'argent, donc forcément, plus de salaire. Que du coup, on avait plus rien. Enfin, on pouvait pas développer les choses comme on voulait. Donc du coup, on n'allait pas continuer d'avoir de l'argent, donc pas de salaire. Du coup, je me suis dit, cette histoire, c'est terminé et c'est mort pour un autre taf. Donc, il faut vraiment que j'oublie le Mexique, là, en fait. Donc, les 2 premières semaines, tu vois, ça a bien tourné tout ça dans ma tête. Et la 2e semaine, je me suis dit, en fait, je pense que c'est mort. Mais c'est vraiment la 3e semaine où ça m'a frappé en mode genre, oh fuck, le Mexique, c'est mort.
Mais t'avais quand même encore ton appart là-bas.
Ah oui, oui.
T'as tes affaires qui sont là-bas.
Ouais.
Et toi, t'es rentrée en mode vacances, tranquillou.
Exactement, c'est ça.
Ah, et oui, là, tu prends la décision, tu te dis, je vais pas retourner au Mexique, je vais rester en France.
Mais en fait, c'est même pas une décision, c'est pas comme si j'avais eu le choix non plus, tu vois. En fait, c'est une décision en mode, j'ai vraiment pas le choix, donc il vaut mieux accepter la décision telle qu'elle est plutôt que de rester dans le déni, en fait, de tout ça. Donc là, je savais que j'allais pas pouvoir aller au Mexique. Je savais que même si j'y allais, que j'allais pas pouvoir réussir à trouver un taf. Donc en fait, j'ai pas le choix. En fait, je suis obligée de rester en France. Donc s'il faut rester en France, qu'est-ce qu'on fait, tu vois?
D'accord.
Donc là, mes affaires sont encore au Mexique.
Ah ouais.
Tu vois? Donc là, ça fait plus de 7 mois. Heureusement, j'ai ma meilleure amie là-bas qui a vidé mon appart. Mon appart, j'ai continué de le payer du coup pendant quelques mois. Et heureusement, j'avais un contrat, donc du coup qui s'arrêtait. Donc du coup, ça m'a un peu sauvée. Mais j'ai quand même perdu des loyers et heureusement les loyers sont pas chers.
Heureusement.
Ouais. Et du coup j'attends toujours de retourner au Mexique pour pouvoir récupérer mes affaires, mais ça je sais pas encore quand ça va arriver, tu vois.
Mais alors attends, parce que du coup tu dis j'ai accepté cette décision, j'ai essayé de trouver comment atteindre mes objectifs de stabilité mais en France. Parce que pour toi ton objectif c'était vraiment d'avoir un endroit où tu puisses te poser, faire ta vie, quoi.
Exactement.
Et du coup tu l'as pris comment, le fait justement que OK, t'as accepté cette décision. Comment tu l'as vécu, en fait, le fait de...
En fait, au final, je voyais à quel point, au Mexique, ça allait peut-être plus dur, finalement, tu vois, d'atteindre donc ces objectifs de stabilité. parce que voilà, je suis une étrangère, que du coup les salaires forcément ils sont beaucoup plus bas. J'allais pouvoir évoluer assez rapidement hein, en tant qu'étrangère et surdiplômée pour le Mexique, etc. Mais voilà, il y allait forcément avoir beaucoup plus de barrières. C'est pas ma langue, enfin tu vois. J'étais consciente de tout ça et il y avait pas de problème. Mais quand j'ai compris qu'il valait mieux que je reste en France, je me suis dit, finalement, pour mes objectifs de stabilité, c'est peut-être mieux. Parce que là, au moins, voilà, c'est mon pays, c'est ma langue, je connais les codes sociaux, etc. Je sais qui aller voir, je sais quoi faire. Donc finalement, ce sera peut-être beaucoup plus facile. Alors, je sais pas encore comment ça va se goupiller tout ça, mais en tout cas, effectivement, pour pouvoir acheter un appart, pour pouvoir créer plus tard mon entreprise, pour pouvoir me stabiliser, créer une famille, etc. Bon, alors, je précise quand même que je suis pas forcément dans l'idée de créer une famille.
Demain.
Et je me dis, sait-on jamais.
Ouais, voilà. Ok.
Si un jour j'en ai envie, ce sera plus facile ici que là-bas.
Donc finalement, tu l'as pas mal vécu.
Ça va.
Parce que du coup, en fait, moi, je t'ai découvert via un post que t'avais publié sur Facebook sur un groupe de voyageuses. Et justement, t'écrivais un peu cette situation, tu décrivais ton retour, etc. Et tu disais aussi que ce retour t'avait permis de poser un nouveau regard un peu sur la France.
Ouais, ouais, ça a été ouf. Alors du coup, faut savoir que avant de partir, j'étais un peu comme tout le monde actuellement. Non, mais le gouvernement c'est de la merde, il fait n'importe quoi, la France c'est pourri.
Je me casse.
Voilà. Bon, je suis française, quoi.
Ouais. Râler, j'aime ça.
C'est ça. Et du coup, quand je vois tout ce qu'il y a à l'étranger et tout, je me dis, waouh, mais là, c'est génial. Il y a ci, il y a ça, nanana. Mais en fait, quand tu vis vraiment, là, tu vois les mauvais côtés, en fait, du pays. Et je me suis rendu compte que, en tant qu'étrangère, moi, au Mexique, j'avais vraiment une vie déjà privilégiée. Que j'avais vraiment pas la même vie que mes potes. En plus, du coup, en parlant vraiment bien espagnol, en fait, tu te rends compte que il y a plein de choses que tu ne vois pas, en fait, au quotidien. Que eux, ils vivent vraiment ça tous les jours. Donc, beaucoup d'insécurité, de la violence, etc. Et en fait, nous, en tant qu'étrangers, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une bulle, tu vois. Après, tu sais, aussi, le fait pendant le confinement, je me dis, putain, mais j'ai trop de la chance. Je suis chez ma mère, je paye pas de loyer. En plus, j'avais le RSA, parce que du coup, aucun revenu, donc je me suis mise au RSA, tu vois. Donc, je gagne 500 euros, j'ai la sécurité sociale. Enfin, tu sais, je me dis tout ça et je me dis, mais en fait, nous, on est... Alors, ok, je suis frustrée parce que je peux pas sortir de chez moi, je peux pas voir mes potes, machin, machin. Mais en fait, en vrai, genre, je suis dans un luxe total. Et du coup, je pense à... Alors, ça va, mes potes mexicains ont quand même un niveau de vie assez élevé. Donc, je connais pas vraiment de personnes là-bas qui ont eu des soucis pendant le confinement. Mais ceci dit, eux, ils en connaissent et eux, ils m'en parlent, etc. Et puis même, je suis l'actualité, etc. Et du coup, je me dis, ces personnes qui sont obligées de sortir de chez eux, sinon, elles ont rien à manger le soir. Et d'autres qui ont été virées, parce qu'il y a eu des licenciements en masse, tu vois, qui ont été virées. Donc, du jour au lendemain, ils ont vraiment, mais absolument plus rien pour payer leur loyer. Parce que tu sais, il n'y a même pas cette histoire d'indemnité à la limite ou je ne sais quoi, tu vois. C'est vraiment, t'es virée et après,
démerde-toi, quoi. C'est vrai que, t'es virée en France aussi, je pense que c'est relou aussi, mais effectivement, il y a quand même des... petite aide.
Eh oui, non, bah oui. Ça reste la merde, hein, dans tous les cas, de se faire virer et tout. Mais voilà, enfin, tu sais, il y avait aussi le chômage partiel ici, etc. Enfin, ouais. Je vois tout ça, je vois à côté au Mexique à quel point c'est la merde, et en plus de ça, le gouvernement, la gestion de crise pendant le confinement, ça a été chaud là-bas. On parle de la France, mais il y avait quand même une vidéo du président, il était genre table, qui disait mais continuez de sortir, continuez d'aller au restaurant, genre fin mars, tu vois.
Mec, t'es entre lui et Trump,
c'est
Bolsonaro aussi. C'est quel pays, Bolsonaro?
Brésil. Ouais.
En ce moment, tu regardes les autres pays, tu dis, bon, ok, c'est la merde ici, mais ça va.
Mais bien sûr que ça va.
Être pire. Franchement.
Mais c'est ça. Et tu vois, et justement, moi, j'avais vraiment la comparaison, entre Brésil, Mexique et les États-Unis. Ouais. Et je me dis, non, mais arrête, en France, enfin, sérieusement.
Ouais.
On est bien. On est vraiment bien. On n'est pas dans l'insécurité. Bon, certes, l'avenir est incertain, mais là, du coup, c'est vraiment global.
C'est mondial, quoi.
Et voilà, à côté de ça, on n'est vraiment pas en train de crever de faim, en fait. Donc, du coup, là, j'étais vraiment en colère contre les Français. Et déjà que, tu vois, je commençais à me rendre compte des énormes avantages qu'on a d'être Français, d'être né en France, d'avoir grandi ici, d'avoir cette mentalité, d'avoir accès à toutes ces opportunités, etc. Ça commençait vraiment à rentrer. Et là, d'un coup, ce retour en France pendant le confinement, là, ça m'a explosé à la gueule en mode, mais meuf, en fait, t'as trop de la chance et plus jamais tu critiques ton pays. Et du coup, moi, même pendant le confinement, j'étais trop fière de Macron et d'Edouard Philippe. J'étais, ouais, putain, les gars, go, go, go. Vous allez y arriver, vous gérez de ouf.
Ah ouais. Vas-y Macron.
Ah, je te jure. Bon, je me suis calmée après, mais...
Oui, quand tu compares effectivement, peut-être à d'autres pays.
Voilà, tu vois.
Mais du coup, parce que c'était pas une décision que t'as prise consciemment en te disant, voilà, j'en ai marre du Mexique, j'ai envie de rentrer. Mais comment t'as fait pour justement accepter cette décision? Parce que souvent on voit des postes de voyageuses qui doivent, alors là c'est hyper spécial, mais même le retour de manière générale, tu vois, après un voyage où le retour est mal vécu en général. Est-ce que t'aurais des petites astuces, des conseils, comment on fait?
Alors en fait, si tu veux, il faut vraiment que tu saches que ce blues du retour, en fait, il m'a pas frappé tout de suite. Il m'a frappé après.
Ah ouais. Oui, mais en général c'est ça, parce qu'au début t'es contente, tu revois. Bon, en général, tu revois tes potes, tu remanges bien et tout, ouais.
Ben, en fait, non, moi, assez rapidement, finalement, j'ai réussi, enfin, parce que j'ai fait vraiment beaucoup de choses pendant le confinement, donc, j'ai créé un réseau dans l'entrepreneuriat social qui est juste dingue, tu vois. En fait, j'avais beaucoup d'espoir sur mon retour. Je me disais, bah, en fait, en vrai, ça va être trop facile. Maintenant, je suis diplômée d'école de coach, j'ai de l'expérience. Vu tout ce que j'ai fait au Mexique, maintenant, si je le fais en français, ça sera 10 fois plus facile. Donc, je me disais, non, ça va rouler, en fait, ce retour. Et au final, j'ai passé plein d'entretiens où j'étais hyper avancée dans des entretiens, en plus pour des postes hyper stylés et tout. Et au final, bah, pas prise, parce que pas assez d'expérience pour la plupart, tu vois. Alors que vraiment, tu vois, j'avais quand même pas mal d'entretiens hyper quali et tout. Donc je me disais, bah, il y en a bien un qui va marcher. Au final, non, rien du tout. Et en même temps, bah, vu que j'avais toujours cette idée, tu vois, d'entreprise, de créer une entreprise, je me suis dit, bah, si je crée ça maintenant? Pas forcément que ça devienne un truc de ouf tout de suite, tu vois, mais en tout cas, commencer un peu à y réfléchir, etc. Donc j'ai commencé.
C'est quoi son entreprise, alors?
En fait, c'est de l'accompagnement des entrepreneurs sociaux avec du mécénat de compétences. Donc, c'est-à-dire que c'est des salariés d'entreprise qui vont, donc, bah, voilà, donner un peu leurs compétences et leur temps, tu vois, donc, à ces entrepreneurs pour qu'ils puissent créer leur entreprise sociale.
Et en échange, ils ont quoi?
Si tu veux, donc, c'est les entreprises qui vont payer. Donc, les entrepreneurs sociaux, ils bénéficient, du coup, bah, de cet accompagnement, de cette aide des salariés, et les salariés, ben, en échange, ben, ça leur donne du sens, en fait, dans leur vie. Enfin, tu vois, ils se rendent utiles, et en même temps, ben, ils rencontrent des gens, tu vois, c'est du bénévolat de leur côté,
et
quoi.
Eux aussi peuvent peut-être apprendre d'entrepreneurs également.
Exactement, c'est ça, ouais, c'est vraiment un échange. Alors juste pour préciser, donc pour l'instant c'est ça l'idée, mais en fait je vais sûrement changer dans pas très longtemps, parce que l'incubateur dans lequel j'ai été acceptée m'ont dit que il fallait que je fasse un léger pivot si je voulais vraiment que mon projet fonctionne. Donc voilà, il va y avoir des petits changements, mais ça sera toujours des gens bénévoles qui aident du coup des entrepreneurs sociaux pour que les entrepreneurs sociaux puissent créer donc toujours plus d'entreprises.
Et cette idée, elle est née de quoi alors?
J'ai fait beaucoup de mentorat pendant le confinement, du coup. Donc aider les entrepreneurs sociaux à développer leurs projets. Et voilà, vu que moi au Mexique, je travaillais déjà pour un accélérateur, donc j'ai commencé à voir un peu tous les accélérateurs et les incubateurs en France, et je me suis rendu compte que voilà, déjà il y en a pas énormément. De toute façon, c'est partout dans le monde, hein, même au Mexique, il y avait pas beaucoup d'incubateurs et d'accélérateurs. Mais voilà, en plus de ça, en France, il y a vraiment très peu de... Enfin, c'est des promos et avec très peu de personnes. C'est genre 10 personnes par an, en fait. Donc du coup, ça veut dire que l'accompagnement est pas hyper accessible, tu vois. Et
t'es un peu tout seul dans ton coin. Ouais. Quand tu crées une entreprise, en général, ouais.
Bah ouais.
Il y a la solitude de l'entrepreneur.
C'est ça, tu vois. Et en plus, là, l'entrepreneuriat social, du coup, c'est des enjeux majeurs. Donc t'as encore plus besoin d'être accompagné. Donc du coup, si déjà, tu vois, il y a une barrière à l'entrée comme ça qui est énorme, en fait, on va perdre énormément de potentiel, tu vois. En plus de ça, voilà, quand j'ai compris que je voulais travailler dans l'entrepreneuriat social, moi, c'était vraiment pour aider les entrepreneurs sociaux. C'est pour ça que j'ai travaillé dans deux accélérateurs, du coup, à Choca et celui où je travaillais. Et du coup, bah ouais, c'était ce qui faisait sens pour moi. C'est pour ça que je voulais vraiment travailler sur ce projet, quoi.
Une de mes questions, c'était quels sont tes projets donc à venir? Mais c'est ça, concrètement, tu dis, maintenant que je suis en France, je vais en profiter pour vraiment travailler mon projet d'entrepreneuriat. Et est-ce que justement le fait d'avoir ce retour forcé, ça t'a aidé à concrétiser ce projet que t'avais peut-être en tête et que...
Ah bah ouais.
Ouais.
Bah ouais, là, tu vois, donc je te disais, tu vois, j'ai pas réussi à trouver un travail. Je vais être honnête, j'ai pas non plus postulé énormément, mais assez pour que ça me dégoûte, en fait, du salariat. Parce que, du coup, ouais, là où je travaillais au Mexique, j'étais hyper libre. On avait tous les jours de télétravail qu'on voulait, on travaillait de où on voulait, je pouvais prendre des vacances quand je voulais, etc. Donc, et franchement, cette liberté, du coup.
Tu vois, c'est bien ça.
J'étais totalement autonome sur mes projets, indépendante. Enfin, tu vois, je faisais vraiment ce que je voulais. Hein. Du coup, ouais, tu vois, j'avais aussi un peu de mal à me projeter en tant que salarié, tu vois, en France. Et quand j'ai vu que voilà, c'était hyper dur. Qu'en plus, en fait, si tu veux, alors pourquoi j'ai pas été prise aussi, c'est parce qu'il y a énormément de personnes donc qui ont envie de travailler dans l'entrepreneuriat social. En plus de ça, il y a énormément de personnes qui sont en train de se reconvertir dans l'entrepreneuriat social. Donc ouais, il y a énormément de personnes qui cherchent un travail dans ce domaine-là.
Et très peu de...
pour très peu de postes. Ouais. T'as tout compris. Donc du coup, pour ça, je me suis dit non, mais en fait, j'ai pas envie de perdre mon temps à postuler pour au final, ça se trouve, je ne serais même pas heureuse.
Donc on va le faire moi-même.
Voilà. Et donc si on me donne pas de job, ben je vais le créer moi-même. Donc ouais, et au final, au début, c'était juste un peu une idée. Bon, allez, on verra ce que ça donne. Et en fait, en vrai, genre ça pris de l'ampleur, tu vois, assez rapidement, sans que je m'en rende vraiment compte, tu vois. Et assez rapidement, du coup, ça a représenté un vrai 35 heures.
C'est marrant parce que du coup, t'es passé par du bénévolat, du salarié, etc.
Ah ouais.
Mais t'es revenu à ce que tu faisais.
Le but de faire tout ça, c'était pour un jour monter mon propre projet. Mais tu vois, je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement parce que je considère que j'ai pas assez d'expérience professionnelle pour ça. Et au final, je me suis rendu compte que bah si, en fait, je suis totalement capable. Mais je pense que tu sais, c'est le en tant que femme, tu vois, on a toujours ce truc de genre ah, je suis pas assez bien
pour l'imposteur.
Exactement. Donc du coup, je me disais bah non, pas tout de suite. Nan. Et au final, je lance ce projet et au final, je vois que bah j'ai aucun problème à convaincre des gens, j'ai aucun problème à parler de mon projet, j'ai aucun problème à trouver des solutions pour mon projet, à mobiliser des personnes autour de mon projet, etc. Donc je me dis bah en fait
go.
Bah ouais, ça a l'air de marcher, donc bah...
Mais je trouve ça hyper cool de se dire que finalement, la vie a mis sur ton chemin le coronavirus.
Mais c'est ça.
Non, mais c'est intéressant de voir que t'as rebondi, quoi. Tu t'es pas dit en mode, bon, bah voilà, c'est la merde, je suis rentrée en France, nanana. Parce qu'effectivement, ça peut être difficile. Il y a plein de gens qui étaient notamment autour du monde, par exemple, qui ont dû annuler et revenir. Enfin, c'est un peu la merde, quoi.
Ouais, ouais.
Mais
ouais.
Effectivement, c'est bien d'un moment donné de se dire, ok, bon, bah la situation, elle est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre avec, quoi?
Mais c'est ça. Et parce que sinon, en fait, si t'acceptes pas la situation dans laquelle t'es, bah, déjà d'une, tu vas le vivre très mal. Et en plus de ça, bah, tu vas rester longtemps dans ce mal-être parce que la seule chose que tu peux faire, c'est vraiment l'accepter. Tu peux pas lutter contre, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux faire contre le coronavirus en ce moment?
Ouais.
Tu peux rien faire. La seule solution, c'est d'accepter et de faire en fonction. Et je trouve que, bah, mon projet, c'est cool parce que je peux le faire vraiment de chez moi sans problème. Au moins, j'ai trouvé un travail donc à temps partiel, tu vois, pour me refaire un peu financièrement et du coup, pouvoir patienter en attendant que je puisse vraiment vivre de ce projet. Et du coup, bah, ça me laisse largement le temps, tu vois, de le développer à côté, de rencontrer des gens, tu vois, comme toi, de bosser donc dans l'incubateur, tu vois, pour développer mon projet. Enfin, je pense que oui, effectivement, c'était vraiment la seule manière de trouver quelque chose où je me sente vraiment bien, de trouver un projet où je me sente bien, tu vois, et en même temps de réaliser au final mes rêves qui sont, voilà, effectivement, tu vois, donc enfin vraiment me stabiliser en fait. Parce que j'ai fait tellement de choses, j'ai tellement bougé qu'en fait mes racines elles sont.
Et maintenant, t'as envie de stabilité. Quoi.
Voilà, exactement, c'est ça. Et donc ouais, je pense que c'est vraiment le seul projet. Et du coup, donc pour en revenir au petit blues du retour, finalement, c'est arrivé août-septembre. Août-septembre, j'ai eu un gros coup de bad parce qu'en fait, vraiment, faut le savoir, trouver sa place dans ton pays après avoir passé autant de temps à l'étranger, c'est hyper dur. Je savais que ma vie n'allait pas être pareille parce que je sais que j'ai énormément changé et que la vie que j'avais il y a plus de 3 ans, bah c'est terminé. Et je pensais que du coup, mon retour allait être beaucoup plus facile, tu vois. Parce que voilà, encore une fois, je suis diplômée, enfin, je sais ce que je veux.
T'as envie de stabilité maintenant, t'as
voilà, fait, ouais. Tu vois. Et au final, ben non, malgré tout ça, c'est quand même dur de trouver sa place et de savoir qui tu es. Parce que c'est ça aussi, c'est une question d'identité. Là-bas, j'étais Inès, la voyageuse, la française, l'étrangère, celle dont l'espagnol c'est pas la langue natale. Et là ici, bah si, en fait, je suis française, donc j'appartiens à tout ça. Mais finalement, comme mon identité, elle a changé,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Donc au final, ben qui je suis dans ce pays, tu vois. Qui je suis, c'est quoi ma place? Alors, ok, d'accord, là, je suis en train de prendre cette position d'entrepreneur, mais ma vie, elle est pas encore réglée, tu vois. Enfin, c'est encore.
Mais t'as raison, ça me fait penser à un truc. Je pense que il y a effectivement, quand t'es à l'étranger, c'est peut-être une question d'ego, tu vois. Mais il y a ce côté, je suis un peu exceptionnel. Je suis, tu vas peut-être être la française du groupe ou tu vas être, tu vois, la personne qui est pas dans son pays d'origine. Et donc, il y a ce côté un peu cool, un peu ouais, ok, je.
Ah oui.
Tu vois, je suis une. Quelqu'un de d'original finalement. Et en fait, quand tu reviens en France, côté française, tout le monde est français.
C'est ça. Tout le monde parle la langue.
Voilà. Donc il y a ce côté un peu moins. Ok, bah je suis moins original. Et donc peut-être que ça fait aussi un coup à l'ego de se dire.
Ouais.
Mais c'est intéressant, je trouve. J'avais pas du tout eu cette réflexion, mais maintenant que tu le dis, effectivement.
Et ouais, si. Et puis même aussi, tu sais, le fait du coup de devoir parler dans une autre langue toute la journée,
ouais.
Et là d'un coup, bah t'as plus ce challenge, tu vois, de parler dans une autre langue et ce truc un peu genre stylé, tu vois, genre je parle une autre langue.
J'habite dans un pays qui n'est
pas
le mien.
Tu vois, j'avoue, c'est vrai. Et franchement, ouais, ça met quand même un petit coup. Tu vois, ton identité, elle change vraiment.
Ouais.
Enfin, en tout cas, l'identité que t'avais là-bas, elle est totalement différente de celle que tu as ici. Et je pense que, ouais, c'est ça où j'ai eu du mal, tu vois, où je me suis dit, mais, bah, c'est qui la Inès de maintenant, tu vois, de maintenant en France?
Et donc ça, c'est un chemin qui est en cours, quoi.
Exactement, c'est ça.
Donc le conseil, ce serait, prenez le temps peut-être de trouver votre place.
Non, le conseil, du coup, ça serait vraiment d'accepter la situation comme elle est, parce que vraiment, la lutter contre, ça changera vraiment rien. Au contraire, ça va empirer les choses. La deuxième chose, c'est surtout de n'avoir aucune attente, je pense, d'avoir vraiment, vraiment aucune attente. Enfin, en tout cas, d'en avoir le moins possible. Parce que encore une fois, voilà, plus t'as d'attente et plus t'as des chances d'être déçu. Après, c'est ça. Aller à son rythme et vraiment prendre le temps de faire les choses, ne surtout pas se presser. Moi, je sais que j'ai voulu me presser parce que je me suis dit non, mais là, putain, j'avais presque atteint ma stabilité, je dois repartir de zéro. Donc là, on va mettre le paquet pour y arriver le plus rapidement possible. Et au final, non, ça marche pas. Mmh. donc, c'est ça, vraiment prendre son temps, bien réfléchir. Pas hésiter à prendre des moments avec soi-même et pour vraiment intégrer tout ça et essayer au maximum, je pense, de s'ancrer. Donc faire des choses, avoir des routines, des petits rituels comme ça. Parce que c'est ça aussi qui fait que du coup, tu vas te sentir plus intégré et mieux dans ta vie, c'est d'avoir des petites routines. Moi, c'est con, mais ça fait moins d'un mois que j'ai rangé ma valise.
Ah ouais.
Ouais, tu vois.
Ah ouais, psychologiquement, il y a un truc. Ouais,
ouais tu vois. Là, j'ai recommencé, tu vois, à organiser ma chambre et tout. C'est une chambre où je n'avais jamais vécu avant, je précise. Hein. Donc, il y a ça aussi. Et ouais, tu vois, genre le fait d'avoir commencé plutôt à organiser ma chambre, de la façonner donc à ma manière, etc. Du coup, là, au niveau de l'ancrage, tu vois, je m'y sens un peu plus chez moi. Donc voilà.
Pas et puis, tu verras plus tard si t'as envie de repartir. Pourquoi pas. Mais sinon, non.
Comme on dit, Inch'Allah. Alors maintenant, je dis Inch'Allah parce qu'en espagnol, on dit Ojalá.
Ah.
Ouais. Et du coup, il n'y a pas de traduction en français, malheureusement.
Et ça veut dire la même chose?
Ojalá, ça vient d'Inch'Allah.
D'accord.
Donc Inch'Allah, mon projet se développera assez pour que je puisse le développer un jour au Mexique.
D'accord. Donc ça, c'est
comme
le projet.
Ça, vivre 6 mois au Mexique, 6 mois en France. Bye l'hiver français.
Pas mal. Ça, c'est. Je pense que beaucoup de gens sont à la recherche de ce genre de solution. Bon, super. Écoute, on arrive sur la dernière question de ce podcast. Donc, le podcast s'appelle De vraie vie. Donc, l'objectif, c'est de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule définition de la vraie vie, que chacun a son chemin. Ça t'évoque quoi pour toi quand je te dis de la vraie vie?
La vraie vie, c'est marrant. Forcément, direct, je me dis, c'est ça, genre, pas de bullshit, pas essayer de rentrer dans les cases, de vouloir faire comme les autres. En fait, de vraiment vivre la vie qui est faite pour nous, qui est bonne pour nous, où on se sent vraiment bien, où on est nous-mêmes. C'est ça, où on est en accord avec nous-mêmes et pas en accord avec je ne sais quoi de la société. et où on est heureux. Voilà.
Très bien, c'est parfait. Et merci beaucoup Inès.
Merci sympa. À toi Anastasia, c'est trop cool.
Si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Ouais, je suis pas très présente en ce moment mais je poste de temps en temps. Donc ouais, Instagram, ça sera Intrepid Dreams, Intrepid avec un S, Dreams avec un S aussi. Et sinon sur Facebook, là je suis peut-être un peu plus présente, Inès Nini Meyer. Nini Nini.
D'accord, si on a des questions.
Exactement, c'est ça. Je suis ouverte et disponible.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'est la fin de cette conversation avec Inès. J'espère que cet épisode vous aura plu, mais je n'en doute pas. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Ça m'aide énormément pour faire découvrir le podcast à encore plus de monde. Et si vous avez un Apple et que vous avez donc que vous écoutez sur Apple Podcast ou que vous écoutez sur Podcast Addict, n'hésitez pas aussi à me laisser des petites étoiles et un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos retours. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.